Le Burkina Faso, connaissait ce petit pays, petit géographiquement, enclavé, sans accès sur la mer, à mi-chemin entre la savane et le désert, dans cette zone que l'on appelle le Sahel, des conditions climatiques extrêmement dures, un sol de plus en plus pauvre, qui nourrit à peine son homme. Une région qui est infestée de nombreuses maladies endémiques, une population certes courageuse et laborieuse, mais qui est encore sous le poids de la domination des forces rétrogrades, la féodalité, et qui vit de l'analphabétisme, les maladies, etc. Voilà, c'est ça le Burkina Faso. Eh bien, vous voyez qu'un programme, il ne peut pas nous manquer, nous ne pouvons pas manquer de programme, au contraire. Nos objectifs se limitent à des prétentions bien simples, bien élémentaires, à savoir nourrir d'abord chaque Burkinabé, l'instruire, le soigner, le vêtir, et également lui donner la possibilité de son épanouissement culturel, de son expression quotidienne. Mais pour réaliser tout cela, nous avons besoin de programmes économiques, de programmes culturels, de programmes politiques et même de programmes de sécurité. Car je crois que vous comprenez très bien que tout le monde n'applaudit pas lorsque l'on parle de Burkina Faso, lorsque l'on parle de voie révolutionnaire, c'est-à-dire d'un non-conformisme par rapport à ce qui a été établi jusque-là et que chacun connaît. Eh bien, beaucoup de choses ont été faites. Mais le plus important, ce n'est certainement pas sur le plan des réalisations matérielles, visibles, palpables, tangibles. Il y a certes des écoles, de nombreuses écoles que nous avons construites grâce à l'investissement humain. Les populations ont travaillé jour et nuit pour construire des écoles. Il y a des dispensaires que nous avons pu construire. Il y a des routes que nous avons refaites, des ponts que nous avons refaits. Il y a des retenues d'eau que nous avons creusées de nos propres mains, alors qu'ailleurs, ce sont des grands engins qui les réalisent. Nous n'avons pas ces moyens pour les faire. Nous les avons réalisées de nos propres mains. Il y a des logements qui ont été construits. 500 villas en 4 mois. Nous avons fait la restructuration du commerce, de l'économie, tout cela, un nouveau code des investissements qui permettent d'investir ici et de participer au développement de ce pays. Des dispositions sur le plan militaire également pour notre sécurité, faire en sorte que le peuple participe à sa propre défense et que l'armée ne soit plus un groupe d'individus peut-être spécialisés qui, ayant appris le métier des armes, aurait pour lui et lui seul le contrôle de ses armes, c'est-à-dire pouvant aussi utiliser les armes contre le peuple. Nous avons fait en sorte tous ces actes ont été posés. Mais le plus important, je crois, c'est le fait d'avoir amené le peuple à avoir confiance en lui-même, à comprendre que finalement, il peut s'asseoir et écrire son développement. Il peut s'asseoir et écrire son bonheur. Il peut dire ce qu'il désire. Et en même temps, sentir quel est le prix à payer pour ce bonheur. Cela a été très, très, très déterminant dans ce pays-là. Et bien sûr, nous avons posé d'autres actes qui concourent à donner confiance au peuple, à savoir la moralisation de la vie nationale, des procès qui ont mis de côté le droit bourgeois, la logique bourgeoise, pour aller droit au peuple. Le peuple a dénoncé, le peuple a condamné, le peuple a été juge, le peuple a été avocat, le peuple a été bourreau, le peuple a été également président pour accorder une clémence chaque fois que cela a été nécessaire. C'est-à-dire, réconcilier le peuple avec lui-même, qu'il soit confiant en lui et qu'il sente qu'il peut se définir. C'est le plus important, je crois, de ce que nous avons pu faire. Et c'est à partir de là que nous continuons de bâtir. Amilcar Cabral était un grand visionnaire et un grand militant, un grand révolutionnaire. qui était certainement très en avance sur son temps, sur son époque, mais en même temps qui avait l'intelligence de savoir coller aux réalités du moment. Ce qu'il a dit est fondamentalement juste, se vérifie aujourd'hui et en fait est une vérité de tout temps. Un peuple sans histoire, un peuple sans culture, n'est plus un peuple en tant qu'entité nationale. C'est un regroupement d'hommes, cela est possible, c'est une juxtaposition, c'est une énumération. Ce peuple n'existe que pour les statistiques, que pour les évaluations de population, c'est tout. Et c'est en sachant d'où l'on vient que l'on peut déterminer où l'on va. Et en cela, nous sommes parfaitement d'accord avec Amilcar Cabral et nous pensons que même demain, et avec la nouvelle forme de culture que nous allons connaître ou que connaîtrons ceux que nous remplacerons, eh bien, il sera nécessaire, il sera indispensable et fondamental de pouvoir dire toujours d'où est-ce que nous sommes partis. Et les crises, les drames de société que l'on connaît, ça et là, sont dus au fait aussi que l'homme devient un élément suspendu, qui ne sait plus sur quoi il s'appuie, sur quel fondement il s'appuie. On le voit en Europe. Et vous savez combien en Europe meurent dans les hôpitaux parce qu'ils manquent d'un minimum de tendresse, d'un minimum de chaleur humaine, alors qu'ils sont entourés par des moyens sophistiqués. Et par contre, ici, si l'on meurt par manque de médicaments, par manque de soins hospitaliers, ce n'est certainement pas par manque de chaleur humaine. Et l'un compense l'autre. Je vous remercie. Lorsque vous posez une telle question, en 1984, elle donne l'impression d'être inutile. Pour d'autres, elle donne l'impression aussi que vous remuez un couteau dans une plaie. Mais c'est tout cela ensemble. C'est une question inutile en ce sens que le monde d'aujourd'hui a oublié, mais à tort. Vous remuez également le couteau dans la plaie parce que il y a là comme une injustice que l'histoire a cautionnée, que l'histoire a marquée à Berlin il y a 100 ans, loin de l'Afrique, mais contre l'Afrique. Nous estimons que cette conférence de Berlin a montré comment un groupe d'hommes, à partir de leur puissance, comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes qui vivent dans des contrées lointaines, avec leur civilisation, avec aussi le schéma de leur évolution, qui aurait pu donner une forme de société que nous ne pouvons pas imaginer. Mais Berlin, il y a 100 ans, a introduit des perturbations sociologiques immenses, des bouleversements terribles. Et Berlin a consacré la barbarie de la colonisation et aussi le mépris, le dédain souverain que des hommes peuvent avoir contre d'autres hommes. Lorsque nous dénonçons aujourd'hui l'impérialisme, lorsque nous dénonçons l'apartheid aussi, il faudrait que nous fassions ce retour en arrière, ce recul historique qui nous permettrait de nous resituer dans le contexte de Berlin. Combien véritablement connaissaient l'Afrique lorsque, autour d'une carte mal faite d'ailleurs, ils décidaient de tracer les frontières, ignorant qu'ils séparaient des familles, des ethnies, des groupes sociaux. Ils sont nombreux aujourd'hui, ceux de nos régions qui, lorsque on leur exige les impôts au Burkina Faso, disent qu'ils sont du Ghana parce qu'effectivement, il n'y a qu'une ligne imaginaire qui les sépare de leur famille restée au Ghana. Et à l'inverse, lorsque le Ghana les poursuit, ils se réfugient en Haute-Volta, au Burkina Faso d'aujourd'hui. Ou alors, à l'inverse, ne peuvent même pas communiquer avec telle ou telle région parce que par le jeu de la colonisation, l'on nous a divisés entre francophones, anglophones, lusophones, etc., etc. Combien à Berlin connaissaient véritablement ces conditions-là? Pourtant, en Europe, on n'a pas hésité à former même des micro-États pour respecter les entités, pour respecter la sociologie. Cela, on l'a refusé aux Africains, on l'a refusé aux Noirs. Berlin est un crime contre notre droit. Une fois de plus, je vois que l'on a été plus fort que nous. Une fois de plus, je vois que l'on nous a prostitués. En ce sens que l'on nous a imposé un mode de développement. L'on nous a imposé une façon d'évoluer et de voir et de concevoir le monde. De ce fait-là, nous nous développons pour la satisfaction de ceux qui possèdent ces schémas de développement, mais pas pour notre propre satisfaction. Je m'explique. Je prends un exemple, terre à terre. Il est conçu comme normal qu'un homme bien habillé chez vous en Europe et respectable, sérieux, soit l'homme qui porte la veste et sa cravate. En bras de chemise, on se ferait traiter de tous les noms chez vous. Eh bien, mentalement, inconsciemment, nous aussi, nous avons importé cela à nous. Et nous considérons qu'un homme bien habillé chez nous, c'est celui qui a la veste, la cravate. Même quand il fait 40 degrés à l'ombre, voyez-vous, un homme qui a chaud, qui ne connaît pas l'hiver, mais qui lutte pour se doter d'un manteau de fourrure, il y a là des contradictions que l'on nous a inculquées, mais que nous traînons avec nous. Et si l'on ne nous avait pas colonisés, s'il n'y avait pas eu cette intrusion dans notre mode de développement, peut-être que nous aurions évolué d'une façon tout à fait différente. Peut-être que nous aurions eu un bonheur plus grand, plus immense que celui que nous avons. Et nous avons des formules de développement que vous êtes venus perturber, bloquer. Il y a des frustrations qui ont été refoulées en nous, qui ressortiront je ne sais quand et comment. L'exemple type que je puis vous donner, à partant même de l'exemple européen, c'est le développement de l'automobile. L'automobile a connu plusieurs variantes. Et c'est une de ces variantes qui vaut aujourd'hui. Mais nous savons, le moteur à explosion, nous savons que le moteur à explosion n'était pas le seul système envisagé pour l'automobile et pour le moteur en général. Et nous revenons petit à petit à une relecture, un réexamen des autres formules. Et peut-être que nous allons abandonner le moteur à explosion pour retourner vers d'autres systèmes de moteurs. Nous aussi en Afrique, nous aurions peut-être pu nous développer avec d'autres conceptions, d'autres concepts, d'autres valeurs. La valeur même ces valeurs métaphysiques qui sont niées, mais que quelques livres occidentaux essayent quand même de prendre en considération, qui vous dit que ceux-là que l'on a bloqués, que l'on a assassinés dans leur épanouissement, n'étaient pas des Jules Verne de chez nous. Cette explication de l'histoire, faisant des Africains rien que des acteurs, parfois même des acteurs inconscients et complices de leur propre domination, cela a été utilisé par beaucoup d'Africains et aujourd'hui encore utilisé par beaucoup d'entre nous pour étouffer en eux tout sentiment de lutte, de libération. Et puis aussi, toute excuse pour créer toute excuse pour le colonisateur. Du reste, il faudrait tout de suite dire que la colonisation n'a pas fait que de mauvaises choses. À quelque chose, malheur est bon. Même un cataclysme qui viendrait à se produire tout de suite dans ce pays pourrait avoir de bonnes choses. Et je ne voudrais pas pousser le cynisme jusqu'à dire que un tremblement de terre peut permettre de reconstruire une ville sur des bases nouvelles et avec une architecture beaucoup plus aérée, plus indiquée. Je n'irai pas jusque-là. Mais enfin, le cataclysme colonisation nous a permis aussi de toucher un peu à certains aspects de la colonisation qui nous a été apportée, et avec cette civilisation aussi qui a ses bons aspects, il ne faut pas le nier. Mais nous, Africains, nous n'avons pas le droit de nous réfugier derrière le fait que nous subissions, que la poudre, que les canons étaient plus forts que nos armes blanches, que les techniques d'invasion étaient beaucoup plus perfectionnée et plus perfide que notre volonté d'hospitalité qui faisait que nous ouvrions nos contrées à des étrangers qui venaient là. Nous n'avons pas le droit de nous réfugier de cela. Il faut que nous sentions notre responsabilité historique et que nous osions remettre en cause ce qui peut et doit être remis en cause. Hier, durant la colonisation, des Africains se sont dressés contre les colonisateurs. Ils ont été bien souvent battus. Et nous savons que même des Africains ont trahi d'autres Africains. Et cela a été bien, généralement ce sur quoi le colonisateur s'est appuyé. Vous n'avez qu'à regarder l'histoire. Pour coloniser le Burkina Faso, il a fallu amener des Africains d'autres régions qui, eux, étaient déjà considérés comme ayant franchi le pas, le saut qualitatif pour entrer dans la colonisation. Ils parlaient déjà, ils disaient « Yabon Banania » déjà, eux. Ils étaient plus avancés, plus évolués. Ils pouvaient les utiliser pour coloniser d'autres et ainsi de suite. Le rouleau compresseur était initié et avancé de lui-même par sa propre inertie. Mais nous n'avons pas le droit de nous en tenir à cela. Nous devons remettre en cause la colonisation et nous, aujourd'hui, nous devons construire demain en apportant notre part de libération, notre part de réhabilitation de l'Afrique, comme d'autres hier, très valeureux, ont lutté et ont permis de comprendre que la colonisation ne pouvait pas être acceptée sur toute la ligne. Je crois qu'il se présente à nous la possibilité d'un dialogue. Nous ne voulons pas nous appuyer sur le mal qui nous a été fait. Nous ne voulons pas nous appuyer sur le vol et le viol qui ont été commis sur nous pour nourrir et entretenir permanemment et continuellement une haine, une réprobation contre qui que ce soit. Non. Nous pensons que d'abord, il faut que, bien sûr, nous ayons le courage de regarder la réalité en face et de dire que ce qui a été fait n'était pas une bonne chose. Mais que nous ayons le courage aussi de dire à ceux d'aujourd'hui qui sont des héritiers irresponsables, entre guillemets, de ce qui a été fait hier, des héritiers qui n'ont pas été acteurs de ce qui s'est passé hier contre nous, que nous ayons le courage de leur tendre la main et de leur expliquer, de les associer, de les amener à communier dans la douleur que nous vivons. Ainsi donc, nous pourrons très certainement montrer en quoi est-ce que la colonisation a été une mauvaise chose. Mais montrer comment, de manière conjuguée, nous pourrons transformer cet acte barbare de domination en un acte positif qui a fait que nous nous sommes connus, que nous nous sommes rencontrés. Peut-être aussi sans la colonisation, jamais nous n'aurions rencontré vous autres, les Européens. Alors, il y a là un langage nouveau à exprimer, qui ne doit pas être naïf, parce que ce serait trop beau que de croire que de manière généreuse, naïve, l'Europe, qui n'a eu de rapport avec l'Afrique que sous la forme d'exploitation d'un système de siphonnage pratiquement de nos ressources, que cette Europe-là va d'emblée nous redonner, nous restituer nos droits. C'est du reste là aussi qu'il faut comprendre que certains concepts comme le nouvel ordre économique international sont des concepts pour enfants de cœur. Et nous ne voulons pas nous laisser prendre à ces pièges-là. Il faut lutter. Mais d'abord en montrant que même ceux qui sont en Europe sont eux aussi victimes de cette colonisation, tout compte fait. C'est-à-dire que lorsque vous payez, vous, un centime d'impôt et que vous savez que cet impôt-là est par la suite envoyé dans un pays qui s'appelle, dans un continent qui s'appelle l'Afrique, un pays qui s'appelle par exemple Burkina Faso, et que cet impôt, loin de servir à un rapprochement entre le peuple burkinabé et le peuple et un peuple européen, français par exemple, mais au contraire sert à entretenir des régimes qui sont des régimes anti-burkinabé, anti-populaires au Burkina Faso, donc liés à la bourgeoisie anti-populaire également chez vous en France, eh bien, vous sentez la collusion et vous devez la dénoncer. Et lorsque vous vous mettez en grève en Europe, en France, il y a des répercussions chez nous, bien sûr. Mais nous savons que par là, vous vous engagez dans un combat qui est également le nôtre. Vous dénoncez la mainmise, de la domination, l'exploitation d'une minorité sur une majorité, sur un plus grand nombre. Et vous exigez que le capital, le profit d'une manière générale, prenne la forme d'un profit social, c'est-à-dire pour toute la société. En cela, vous parlez un langage qui est exactement le nôtre. En cela, vous engagez des revendications qui sont les nôtres. En cela, vous menez un combat qui est également le nôtre. Donc, selon moi, il y a espoir. Il y a espoir que nous montrions que notre libération ne va pas contre les peuples d'Europe. Notre libération va bien sûr contre la bourgeoisie.
Et elles sont de deux ordres. Dû à la colonisation, mais également dû à des facteurs endogènes avant la colonisation. Il ne faudrait pas que nous commettions l'erreur de ne voir que la colonisation, que le colonisateur pour en faire notre bouc émissaire. Non, nous savons que même dans nos sociétés traditionnelles, il y a des éléments contestables, des éléments répréhensibles et critiquables. Du reste, si vous lisez notre nouvel hymne national, nous ne faisons pas dater nos malheurs seulement de la colonisation. Nous disons, contre la férule humiliante, il y a 1000 ans, bien avant la colonisation. Et vous voyez comment nous situons dans notre hymne la succession, la stratification de tous ces phénomènes d'oppression, de domination. Bien. Donc ces phénomènes de résistance-là existent, dus à la colonisation, dus aux méthodes féodales, aux sociétés féodales, du type féodal, pour bien cerner la définition dans le sens marxiste, le type féodal, le terme, peut trouver des femmes dans l'haltérophilie, si, pour peu que l'on accepte qu'elles déforment un peu son corps par l'entraînement physique. On peut trouver des femmes ingénieures, on peut trouver des femmes à tous les postes. Nous avons nommé des femmes à des postes de responsabilité. Dans notre premier gouvernement, nous avions une femme. On nous a dit, oui, c'est bien, vous parlez beaucoup des femmes, mais enfin, on ne voit qu'une femme. C'est un alibi, c'est une femme alibi que vous aviez utilisée. Et pour quel ministère? Ministère des Affaires Sociales, c'est-à-dire ce ministère que tous les gouvernements, ici au Burkina Faso comme ailleurs, attribuent aux femmes. Eh bien, nous avons continué de discuter avec les femmes elles-mêmes pour nous décomplexer, nous, parce que nous avons un complexe de supériorité, pour les décomplexer, elles, parce qu'elles ont un complexe d'infériorité, ces femmes. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons fait du chemin. Nous avons dans notre gouvernement 3 femmes, ministres, essor familial et solidarité nationale. C'est une question très importante. Sport et loisirs, quand on sait que nous sommes dans un pays où la jeunesse est exigeante, c'est un ministère qui est très important. Le budget, c'est une question qui est permanemment, quotidiennement importante. En tout cas, cette femme qui est au budget, comme j'ai eu l'occasion de lui dire lorsqu'elle prenait fonction, elle se trouve dans le portefeuille de tous les hommes ici. Certains verront sa photo comme une femme peut-être charmante et utile, d'autres la verront comme celle qu'il faut celle qu'il faut charger de tous les péchés, pas d'Israël, parce que ce serait parler de... Mais en tout cas du Burkina Faso. Nous avons fait cela, nous avons nommé des femmes hauts commissaires qui commandent, qui dirigent des provinces au même titre que des hommes. Il y en a 4 en ce moment. Nous avons nommé des femmes à des postes de direction générale de grandes sociétés de la place. Et cela fonctionne très bien. Les femmes commencent à se dire, mais tiens, ce Conseil national de la Révolution, il est vraiment au sérieux pour la promotion de la femme. Et c'est elles-mêmes qui nous proposent maintenant les femmes qu'elles estiment capables. Nous avons fait des choix, parfois pas très heureux au départ, soit, mais c'était suffisant pour... dégager pour arracher les femmes de leur inertie.